Ce cadre analytique comporte généralement, on l'a dit, trois éléments. D'abord, des acteurs, individuels ou collectifs, dotés d'un comportement rationnel, c'est-à-dire tout simplement prévisible. Ensuite, des mécanismes de coordination entre ces acteurs. On distingue deux types de mécanismes très différents. La hiérarchie, où un individu commande le travail des autres et peut donc coordonner le travail d'un groupe, une entreprise par exemple, de manière à ce qu'on y fabrique exactement le nombre de pièces détachées qu'il faut pour l'assemblage final. L'autre mécanisme de coordination est le marché. Il existe naturellement des formes de coordination intermédiaires, comme les relations qui existent entre un donneur d'ordre et ses sous-traitants. Le troisième élément est constitué des institutions, et en particulier des États, qui, d'une part, fixent les règles de droit dans lesquelles peut se déployer le comportement des acteurs et le fonctionnement des marchés et des hiérarchies, mais qui aussi agissent comme acteurs économiques, en prélevant des taxes et en produisant des biens publics, ce que seul l'État peut décider de faire, ou même en agissant en tant qu'État comme un acteur privé. Les acteurs économiques manipulent des objets économiques et se livrent à des actes économiques. Les actes et les objets concernés par l'analyse économique, on l'a compris au chapitre précédent, ont beaucoup varié dans l'histoire de la pensée et se sont étendus des biens matériels à des biens ou à des comportements comme l'éducation, le choix du conjoint, pourvu qu'on puisse doter dans ces choix les acteurs de comportements rationnels. Mais le noyau commun des objets que manipulent les agents économiques est assez restreint et est le suivant. Des monnaies qui permettent d'acheter tous les biens à vendre et de se libérer de toute dette. Des biens et services marchands que la monnaie permet d'acheter et de vendre. Des biens particuliers qui sont les biens publics et que seul l'État peut décider de produire ou de faire produire. Des titres financiers qui ne sont que de simples promesses de rendre ultérieurement, avec bénéfice si possible, de la monnaie empruntée aujourd'hui. Et enfin, et c'est très important dans l'économie contemporaine, des informations que les acteurs créent et échangent. Si bien que les actes économiques fondamentaux sont également peu nombreux, l'achat, la vente, la production, la consommation, l'épargne et l'investissement qui ne sont que des achats et des ventes de titres. Les acteurs économiques, on l'a dit, peuvent être individuels ou collectifs. Individuels, ils peuvent n'être que des parties d'un individu réel. Ainsi, dans l'économie néoclassique, on distingue, on l'a dit, le producteur du consommateur. Mais le même individu peut être à la fois consommateur et producteur. Les individus peuvent être regroupés en acteurs collectifs. C'est le cas des collectifs hiérarchiques organisés comme une entreprise. Dans ce cas, on dote l'entreprise d'un comportement supposé de son chef. Ou alors, ce peut être des collectifs statistiques, comme les classes sociales chez les classiques, ou les ménages, ou les entreprises non financières de la comptabilité nationale actuelle. Dans les modèles contemporains des nouveaux classiques, les individus sont aussi regroupés, mais sous la forme d'un agent représentatif. Le consommateur représentatif, le producteur représentatif. Mais on l'a vu, ce cadre analytique ne permet pas de traiter l'hétérogénéité à l'intérieur des acteurs représentés. Dans tous les cas, ce qui est essentiel est que ces acteurs sont dotés de comportements stables. Le prix Nobel d'économie 2017 a été attribué à un chercheur, Richard Thaler, qui a mis en évidence en finance des comportements qui ne ressemblent pas du tout à ceux qui sont généralement adoptés par les modèles économiques standards, à savoir le comportement de maximisateur en univers connu, ou du moins en univers entièrement probabilisable. Néanmoins, c'est ce comportement de maximisateur en univers probabilisable qui est très massivement adopté aujourd'hui dans les modèles économiques. C'est en fait le modèle de l'homo economicus. Certes, l'acteur des modèles économiques aujourd'hui est considéré comme plus ou moins bien informé. Mais il reste rationnel au sens où il calcule l'action qui est la plus bénéfique pour lui, compte tenu de celle des autres, dans son propre système de valeurs. Et ce système de valeurs est réduit à soit maximiser le profit, si c'est une entreprise, soit maximiser la satisfaction donnée par la consommation, si c'est un consommateur. Mais ce qui importe en théorie, c'est que les comportements soient stables, donc prévisibles. Et il est certain que les progrès de l'économie viendront de l'incorporation de comportements plus complexes en univers incertain. Les mécanismes de coordination, on l'a dit, sont de deux types polaires, les hiérarchies d'un côté et les marchés de l'autre côté. Nous avons parlé des hiérarchies, précisons ce qu'est un marché. Le marché est un mécanisme, nécessairement organisé par des institutions, qui assure une coordination entre acteurs simplement en produisant une information, un prix. Si le marché fonctionne correctement, ce prix est l'information nécessaire, mais aussi suffisante pour qu'à ce prix, les offres de vente soient miraculeusement égales aux offres d'achat. On dit que les marchés s'équilibrent quand ils permettent l'ajustement généralisé des offres aux demandes, et donc l'inexistence de stocks inutiles qui s'accumulent dans les coins ou de files d'attente. Quant aux institutions, pour employer un terme d'origine anglo-saxonne, elles régulent tout ce qui précède. Elles encadrent le comportement des acteurs par des règles, comme par exemple le droit du travail, le droit de la concurrence, et par ailleurs elles produisent des biens publics. On voit bien que s'introduit ici la politique, puisque l'objectif d'une institution comme un État n'a aucune raison d'être quelque chose qui puisse s'exprimer en termes économiques, comme par exemple la maximisation de la croissance. Car se poserait immédiatement la question de la répartition des fruits de cette croissance. Une question, on le verra, purement politique.